Je vais vous raconter une histoire pour débuter. Semble-t-il, c'est une histoire vraie. Merci. Je ne sais pas si elle l'est, ce sera à vous de juger. J'ai pris ça dans un petit livre de méditation quotidienne et j'ai trouvé ça intéressant comme introduction à mon message ce matin. Alors, un homme qui venait de terminer son quart de travail rentrait chez lui vers minuit. À pied et fatigué, il décida de prendre un raccourci à travers un cimetière. Comme il marchait, il ne remarqua pas une fosse qui avait été creusée et il tomba dedans. Paniqué, il essaye désespérément d'en sortir en grattant la terre, mais malgré tous ses efforts, il ne réussit pas. Voyant que c'était peine perdue, il décide de se calmer et d'attendre jusqu'au matin que quelqu'un vienne l'aider. Alors, il s'assit dans un coin de la fosse et il s'endort. Un peu plus tard dans la nuit, un ivrogne qui passait par là trébuche et tombe dans la fosse lui aussi. Notre homme se réveille à cause de l'ivrogne et l'ivrogne lui-ci tente désespérément de grimper pour sortir de là. Alors, notre homme qui est dans le coin s'étire le bras et lui attrape la jambe et dit « Mon ami, essaye pas, c'est peine perdue, tu sortiras pas d'ici. » À peine une seconde plus tard, l'ivrogne était sorti. La morale de cette histoire, c'est qu'avec une réelle motivation, quand on veut, on peut. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, on te prie d'être avec nous ce matin. On va ouvrir ta parole, Seigneur, et on va regarder une portion des Écritures ensemble. Puisses-tu, Seigneur, parler à nos cœurs, personnellement nous dire le message que tu as pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, qu'au final, on ressorte avec, dans nos pensées, avec encore un désir plus grand de vouloir te servir et de réaliser à quel point tu es grand, tu es bon et merveilleux, Seigneur Jésus. Bénis ce temps qu'on va passer ensemble dans la parole ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on continue une petite étude, une mini-série qu'on avait débutée en septembre dernier, sur le service chrétien, l'implication dans l'Église. Et on vient de voir l'hommage à M. Fex, mais c'était pas prévu. Ça donne comme ça. Mais je trouve que ça donne bien. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Hein? On pourrait dire que c'est hasardieux. On avait vu dans le premier message de la mini-série un texte dans Luc 8 qui nous parlait de Jeanne et Suzanne. Alors, Jeanne et Suzanne étaient des femmes qui passent presque inaperçues dans la Bible, mais qui pourtant ont été utiles à l'œuvre de Dieu. Et par ce message-là, on avait vu que notre implication dans l'œuvre de Dieu est importante, même si elle n'est pas toujours très visible, parce que Dieu, lui, le voit. Alors, dans chacun des messages, j'essaie d'aborder un aspect différent. Ensuite, on avait vu en Nombre 16, avec l'épisode de la révolte de Corée, que quand on sert le Seigneur, il faut pas le faire en enviant la place de quelqu'un d'autre. Parce que quand on fait ça, en réalité, c'est pas le Seigneur qu'on veut servir, mais notre propre cause. Et comme dans l'histoire de Corée, ben, quand on fait ça, souvent ça se termine mal. Et ce matin, on va voir un autre aspect du service chrétien. C'est celui de l'importance que chaque croyant soit impliqué dans l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre. Tournez avec moi dans le livre de Néhémie, au chapitre 3. On va voir ce matin que ce que je veux relever, c'est que servir le Seigneur ne devrait pas être par contrainte ou par obligation. Dans le sens que je ne veux pas que vous vous dites, « Bon, ça y est, un matin, il va nous taper dessus, puis il va nous dire qu'il faut... » Non, c'est pas ça. Loin de moi cette idée, au contraire. Ce que je veux relever, c'est que servir le Seigneur pour la gloire de Dieu, ça devrait être notre désir, notre intérêt, mais pour ça, ça prend la bonne motivation, parce que parfois, c'est juste la bonne motivation qui nous manque pour y arriver. Juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte avant de lire le passage, le livre de Néhémie nous raconte comment un Juif qui habitait en Perse, Néhémie, à 1500 kilomètres de Jérusalem, comment il a répondu à l'appel de Dieu pour aller reconstruire la ville de ses ancêtres, la ville et les murailles qui étaient en ruine depuis très longtemps. En Néhémie 1:3, il est écrit que le peuple de Jérusalem était au comble du malheur et de l'opprobre. L'opprobre, c'est de la honte. Et quand Néhémie a appris ça, il en a été affligé. Alors, il a fait toutes sortes de démarches pour remédier à la situation. Et ça n'a pas été sans difficulté et sans tracas, mais il l'a fait. Il faut comprendre qu'une ville non fortifiée à l'époque était une proie facile pour les bandes de pillards, pour les armées ennemies, pour les voleurs de grands chemins qui en profitaient tout le temps pour attaquer la ville parce qu'elle était vulnérable. Et ça amenait beaucoup de souffrance aux habitants. Souvent, les gens se faisaient attaquer, piller, malmener, voler. Ils se faisaient voler leur bétail, leurs biens, leurs maisons étaient détruites. Ils n'avaient pas de murailles pour les protéger, alors c'était très difficile. Et c'était le contexte de Jérusalem à l'époque. Et ça faisait 140-141 ans que tout avait été détruit quand Néhémie est allé à Jérusalem. Il y avait eu plusieurs tentatives de reconstruction avant lui qui avaient été faites, mais toutes avaient échoué. Néhémie, lui, a réussi. 141 ans de ruines, et Néhémie a réussi à faire dire au peuple, « Levons-nous et bâtissons. » Et savez-vous en combien de temps la muraille a été reconstruite? 52 jours. 52 jours. 141 ans, presque un siècle et demi d'opprobre, de toutes sortes de malheurs ont été réglés en 52 jours. C'est quand même extraordinaire, vous ne trouvez pas? Néhémie a réussi, pas parce qu'il était plus beau, plus fin que les autres. Peut-être qu'il l'était, mais ce n'est pas ça la raison. Mais il a réussi parce que, premièrement, c'était l'œuvre de Dieu. Néhémie a fait l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Et Dieu avait pourvu à toutes sortes de ressources pour le faire. Des ressources matérielles, évidemment, mais aussi des ressources humaines. Il avait incliné le cœur du roi pour que Néhémie aille. C'est toute une histoire. Lisez le livre de Néhémie, c'est vraiment passionnant. Et si Dieu n'avait pas été là, ça n'aurait pas été possible. Donc, Dieu était à l'œuvre. C'était la première des deux raisons pour laquelle Néhémie a réussi. Et la deuxième, c'est que Néhémie avait su donner au peuple de Jérusalem une réelle motivation. Au point que ce n'est pas Néhémie, mais le peuple qui a dit « Levons-nous et bâtissons ». D'ailleurs, en Néhémie 2:18, c'est le verset clé de tout le livre de Néhémie. « Levons-nous et bâtissons ». Regardez bien, Néhémie 2:18. « Et je leur racontai, c'est Néhémie qui parle, je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent « Levons-nous et bâtissons ». Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Lisons maintenant le chapitre 3. Il y a 32 versets, c'est assez long, mais ça vaut la peine de lire. Ça vaut toujours la peine de lire la parole de Dieu, de toute façon. Mais lisons, puis on va lire ensemble, puis remarquez bien comment les gens réagissent. Alors, Néhémie, chapitre 3, verset 1. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Éliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Méremoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berechia, fils de Meshézabéel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paséach, et Meshulam, fils de Bézotia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélassia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, appartenant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres. et à côté de lui travailla Anania d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Riphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Harumaph. Et à côté de lui travailla Hattush, fils de Hachabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashkub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalum, fils d'Aloshesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanun et les habitants de Zanoac réparèrent la porte de la vallée. Ils bâtirent et imposèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et imposa les battants, les verrous et les barres. Shalum, fils de Colosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et imposa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé près du jardin du roi jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Asbuk, chef de la moitié du district de Bethur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites. Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Hachabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères, Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal, à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Méremoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui, travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Uzaï travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la tour de la prison, de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fils de Paréoche. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia et Hanun, le sixième fils de Tsalaph, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mishkad. Et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Ouh. Excusez mon hébreu, mais... Vous savez, c'est un texte qui est, oui, long. Peut-être que vous aviez hâte que ça finisse. Mais moi, je trouve que ce texte-là est quand même très inspirant. Très inspirant, puis les détails qui nous sont donnés là nous montrent que Dieu n'est pas oublieux de ce que l'on fait pour lui, dans les moindres détails. Oups. Lorsqu'ils se sont mis au travail, les gens, vous savez, ne voyaient plus seulement que des ruines. N'oublions pas que ça faisait 140 ans que tout était en ruine. Ils s'étaient habitués à ça, là. Tu sais, on s'habitue des fois à une situation en ruine, une situation désastreuse, une situation malheureuse, puis on dirait qu'à un moment donné, on le voit plus. Hein? Alors, ces gens-là se sont mis au travail, mais avec ce qui venait de se passer, comment Néhémie leur avait montré comment la bonne main de Dieu était sur eux, et que les gens se sont dit, levons-nous et bâtissons, et qu'ils ont réussi en à peine 52 jours à tout relever. C'est parce que quand ils se sont mis au travail, ils ne voyaient plus que des ruines. Ils voyaient déjà la muraille reconstruite et les bénédictions qui allaient en découler et comment leur vie allait être changée. Et à travers ça, quand on lit le livre de Néhémie, on voit qu'ils ont dû faire face à beaucoup d'adversité. L'adversité intérieure qui venait de l'intérieur du peuple, comme de l'adversité extérieure aussi, des ennemis d'alentour. Ils ont dû faire face à de l'intimidation, à des menaces de guerre. Ils ont vécu de l'abus de pouvoir de la part de certains de leurs dirigeants. Leurs dirigeants qui ont voulu profiter de la situation. Ils ont relevé toutes sortes de défis et ils ont subi une période de découragement. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est comme ça aussi. On a toutes sortes de défis. Des défis internes, des défis externes, du découragement, de l'intimidation, du rejet. On peut vivre toutes sortes de situations quand on s'affiche pour le Seigneur et quand on veut le servir. Mais malgré tout ça, ces gens-là ont réussi parce qu'ils ont persévéré tous ensemble, étant motivés par une vision commune. Ils travaillaient tous ensemble, mais motivés par la même chose. Et c'est ça qui a fait la différence. Et ça m'amène à vous demander, et je m'inclus là-dedans, est-ce que nous avons une vision pour l'œuvre de Dieu à Trois-Rivières et dans la région? Moi, je crois sincèrement que Dieu veut nous utiliser en tant qu'Église, puis les autres églises de la région aussi, pour faire rayonner son nom. Bon, il le fait déjà. On a Pignon sur rue, on a différents services et organismes qui vont vers la communauté, qui servent les gens à l'extérieur aussi. Dieu est déjà à l'œuvre ici. Mais est-ce qu'on doit se contenter de ça parce qu'on est habitué à la situation ou est-ce qu'on doit viser encore plus? Vous savez, on a des ruines à relever nous autres aussi. Ce ne sont pas des ruines physiques, comme il y avait à Jérusalem, mais ce sont des ruines spirituelles. On est entouré de ruines spirituelles. Pensons à tous ces gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui meurent dans leurs péchés. Ça en est des ruines spirituelles, ça. Parce qu'ils vont passer l'éternité en enfer, parce qu'ils ont refusé le salut de Christ. On doit faire quelque chose, on doit leur annoncer l'Évangile. On doit leur communiquer leur foi, notre foi. On doit leur dire ce que Jésus a fait pour nous et pour eux. Ça en est, ça, des ruines spirituelles à relever. Il y en a beaucoup. Dans les ruines spirituelles, il y a aussi les croyants qui ont délaissé les églises. Il y a beaucoup de croyants qui ne fréquentent pas d'église locale. Ben, ces croyants-là sont en danger, sont la proie de Satan qui, comme un lion rugissant, cherche qui va dévorer. Les ruines spirituelles, ça peut se manifester de toutes sortes de façons et il y a beaucoup de travail. Et trop souvent, on est habitué à la situation, puis on n'en fait plus de cas. Mais le Seigneur nous appelle à dire tous ensemble, frères et sœurs, levons-nous et bâtissons! Faisons de l'église de Trois-Rivières une muraille pour le Seigneur. Une muraille derrière laquelle les chrétiens vont être fortifiés, protégés spirituellement. Une muraille qui va nous montrer, qui va montrer aux gens alentour comme un monument grandiose, la gloire de Jésus-Christ. On en a des ruines à relever pour le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle tous à faire ça. Parce que le Seigneur a des œuvres de préparer pour chacun d'entre nous, des œuvres d'avance. Peut-être que vous êtes déjà impliqué dans une église ou dans votre église ici ou dans un autre ministère autour. C'est correct. Mais peut-être que vous ne l'êtes pas. Ma question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche? Je pense au texte, puis je me dis, c'est sensiblement les mêmes raisons. Parce que des fois, on fait face à de l'adversité. Et quand on fait face à de l'adversité, bien, ça peut nous éteindre. L'adversité, surtout si elle vient de l'intérieur de l'Église. On peut avoir des blessures. On peut avoir des déceptions. On peut avoir essayé quelque chose, puis ça n'a pas bien terminé. Alors, ça nous empêche de s'impliquer. Peut-être qu'on a subi aussi de l'abus de pouvoir par un responsable d'église dans le passé, puis qu'aujourd'hui, notre zèle est éteint à cause de ça. Peut-être qu'on croit à tort, pour une raison ou pour une autre, qu'on ne peut rien apporter à l'église parce qu'on n'est pas doué. C'est faux. C'est faux. Le Saint-Esprit, à notre conversion, donne un ou plusieurs dons à chaque croyant. Et il veut qu'on le serve avec ce don-là, dans une mesure différente. On a vu ça dans les messages passés de la série. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles un chrétien veut ne pas servir le Seigneur, mais aucune de ces raisons-là n'est valable. Parce que le Seigneur nous appelle tous, en tant que croyants, à le servir. Si vous dites que vous ne pouvez rien faire, essayez de vous souvenir si vous l'avez entendu, sinon je vous invite à aller écouter le message sur Jeanne et Suzanne où je vous ai parlé de M. Serge Lemieux, ce paraplégique cloué sur un lit d'hôpital où il n'y avait que sa tête et une main qui bougeait. Il avait un ministère extraordinaire de prière et d'encouragement dans le Seigneur. Vous savez, quand on veut, on peut. Il suffit d'être motivé par la bonne vision. Et qu'elle soit physique, comme à l'époque de Néhémie, ou spirituelle, comme aujourd'hui, les ruines qui nous entourent sont abondantes. Alors pourquoi ne pas regarder en avant et laisser nos blessures derrière et avancer pour le Seigneur, dire « Levons-nous et bâtissons ». Parce que si vous se levez, c'est parce qu'on n'est pas debout. Puis travailler assis, ça ne va pas bien, sauf devant un ordinateur. Mes autres, ils n'en avaient pas. Levons-nous et bâtissons, frères et sœurs, tous ensemble à la gloire de Dieu. Laissons le Seigneur nous diriger dans ce qu'il va nous montrer, mais tous, autant que nous sommes, on peut faire quelque chose et le Seigneur nous appelle à le faire. Vous savez, servir le Seigneur, c'est un acte d'obéissance à Dieu. Mais c'est aussi un acte de reconnaissance envers lui, parce qu'il nous a sauvés. On peut sauver de façon, on peut servir de façon religieuse, parce que ça paraît bien, parce que je me sens obligé de le faire, ou parce que toutes sortes de raisons. Mais je crois que la première raison qui devrait motiver chacun d'entre nous à servir le Seigneur, c'est parce qu'on a été sauvé. C'est parce qu'on a été libéré. Ça me fait penser à cette histoire. Semble-t-il qu'il y ait une histoire vraie, mais on ne sait pas. J'avais lu ça quelque part aussi. C'était dans un marché d'esclaves. Et il y avait un homme qui était là, enchaîné, quelqu'un de grand, de fort, de costaud. Et il était là avec les autres esclaves. Et puis, un homme riche passe devant tous, il s'arrête devant lui, et puis il dit, « Moi, je vais acheter celui-là. » Et notre homme, enragé, serre ses chaînes, puis il regarde l'homme riche dans les yeux, puis il dit, « Si tu m'achètes, je te tue. » L'homme riche a dit, « C'est lui que je veux. » Alors, il l'a fait emmener à l'écart, et il a dit au serviteur qui était là, « Détachez-le. » Les autres ont dit, « Es-tu sûr? » Il dit, « Oui, détachez-le. » Alors, ils l'ont détaché. Et l'homme riche s'est avancé de l'esclave. Il lui a dit, « Je te rends ta liberté. Tu peux t'en aller. Tu es totalement libre parce que je t'ai racheté. » L'esclave est tombé à genoux en pleurant, puis il a dit, « Je vais te servir pour le reste de ma vie. » Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais elle reflète une belle vérité, celle que Jésus nous a rachetée d'un esclavage dont nous étions tous pris. Il nous a rendus libres en lui, libres de bien des choses. Est-ce qu'on va vouloir le servir pour ça? C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse, et je crois que par reconnaissance, c'est l'attitude qu'on devrait aussi adopter envers le Seigneur. Deuxième point, motiver à s'engager. À la lecture du chapitre 3, on voit que les murailles de la ville n'avaient pas été relevées que par des maçons et des ingénieurs civils, mais par tout le monde. Et c'est là que je veux en venir. Le texte nous dit qu'il y avait des prêtres, des orfèvres, des parfumeurs, des politiciens, des marchands, des serviteurs du temple, des portiers, des gens du peuple, des femmes, hey, même des femmes. C'est une blague. Et même des Juifs qui n'habitaient pas Jérusalem. Vous savez, en 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul explique que chaque membre du corps de Christ a son rôle à jouer pour le bien de tout le corps, en 1 Corinthiens 12. Et au verset 27, il mentionne ceci. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Chacun pour sa part. On a tous un rôle à jouer. En Néhémie 3, les prêtres, vous savez, à cause de leur fonction, ces gens-là, à cause de leur fonction sacrée, auraient pu se décharger de ça et puis donner la responsabilité à d'autres en disant qu'eux autres, là, leur tâche, elle est spirituelle et c'est pas de salir les mains dans la brique. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont participé, les prêtres aussi. Les orfèvres, qui étaient des bijoutiers, ils auraient pu s'excuser, eux autres, en disant qu'ils étaient habitués à faire un travail de minutie, quelque chose de minutieux, quelque chose de précis, puis que poser de la brique, poser de la pierre, c'était trop rough pour eux autres. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont pris part aux travaux. Il y avait des dirigeants des différents districts, hey, des politiciens. Non, mais ça travaille-tu un politicien? Y a-tu des politiciens dans la salle? Non? OK. Non, ils travaillent, mais à leur façon. Mais il y en avait aussi à Jérusalem à l'époque, mais ils n'ont pas sorti d'arguments politiques pour éviter de travailler et de rester dans leur bureau. Mais ils sont allés travailler côte à côte avec tous les autres ouvriers qui étaient là. Il y avait les filles de Shalom au verset 12. Elles auraient bien, très bien pu rester à l'accord en disant que c'était pas un travail pour les femmes. Non, mais comment, les gars, je vais me casser un ongle, là. Je peux pas y aller, là. Hein? Ou je vais défaire ma permanente. Mais non. C'est pas ça que les femmes ont dit. Elles ont pris part aux travaux, elles aussi. Elles ont été utiles, elles aussi. Il y avait des Juifs qui habitaient pas Jérusalem qui auraient pu dire, hey, c'est pas notre ville, arrangez-vous avec vos affaires, les gars, là. Non. Ils ont pris part aux travaux pour aider leurs frères, eux autres aussi. Et tous ces gens-là ont réussi à travailler ensemble et en pleine harmonie, malgré leurs différences de métier et de classe sociale. Et savez-vous quoi? Ils l'ont fait de façon bien coordonnée. Et c'est comme ça que l'Église devrait fonctionner aussi. En Éphésiens 4:16, la parole de Dieu nous dit, « C'est de lui, de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le Seigneur appelle tous les croyants à s'impliquer à l'œuvre de Dieu. Et nous faisons tous partie, on a tous un rôle à jouer là-dedans pour la gloire de Dieu. Et vous savez, moi, je me dis, est-ce qu'on veut être identifié aux principaux ou aux dirigeants des Técoïtes au verset 5, dont il est dit que les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur? La parole de Dieu mentionne tous ceux et celles ici qui ont pris part aux travaux et même ceux qui n'ont pas pris part aux travaux. Est-ce qu'on veut que Dieu se souvienne de nous comme quelqu'un qui a enterré ses dons ou comme quelqu'un qui les a fait valoir? Ces gens-là ont négligé leurs responsabilités. Et le fait qu'ils sont mentionnés ici nous montre que Dieu relève le travail de chacun. En Hébreux 6:10, la parole nous dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, même s'il est non visible. Même si à nos yeux, c'est quelque chose de petit, Dieu n'est pas injuste pour l'oublier. Et en 1 Corinthiens 15:58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce qu'on fait pour Dieu va être relevé dans l'éternité en quelque part. » Chaque petite pierre posée à côté de chacune, chaque petite pierre posée à chacune des sections de la muraille avait son importance parce qu'elle contribuait avec toutes les autres à former un tout. Chaque petite chose que nous faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu est importante, frères et sœurs, parce que ça fait partie d'un tout. Vous savez, on évalue parfois l'importance de notre implication en fonction de la visibilité. Oh, mais moi, ce que je fais, il n'y a personne qui le sait. Je suis pas prêt à dire ça, moi. Premièrement, Dieu le voit, mais il y a souvent des gens autour de nous qui le remarquent. C'est juste qu'on ne sait pas. Bon, ça ne devrait pas être notre motivation d'être vu, là, mais ça peut être un encouragement à dire, ce que je fais, je ne le fais pas pour rien. C'est important. Puis je le fais pour la gloire de Dieu. Même si c'est une toute petite pierre que je pose sur la muraille, elle va être là pour l'éternité. Et Dieu va s'en souvenir, et Dieu va le relever dans l'éternité. 1 Samuel 16,7 nous dit, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu n'est point juste pour oublier l'œuvre que nous faisons pour lui et pour son Église. Et nous, ce qu'on voit, et souvent on dit, « Oui, mais on ne voit pas de fruits à ça. » Les fruits appartiennent au Seigneur. Évidemment, c'est encourageant de voir des fruits. On aime tous voir des fruits de notre travail. Mais disons-nous que Dieu va récolter les fruits en sa saison et que même si on ne le voit pas, ce n'est pas grave parce que nous, on a une vision très restreinte des choses, très restreinte de l'œuvre de Dieu. Mais Dieu, lui, en a une vue d'ensemble. Il voit tout du début à la fin, ce que nous, on ne voit pas. Dans le texte, il y a l'expression « côte à côte » qui est là. C'est une chose qui me frappe, ça, parce que les expressions « côte à côte » ou « après lui » ou « après eux » reviennent une trentaine de fois dans le passage et ça nous montre que Dieu nous incite à travailler ensemble en unité et en harmonie. Aussi, à plusieurs reprises, dans les versets 10, 23, 29 et 30, il est question de gens qui travaillent devant leur maison ou vis-à-vis leur chambre. D'une certaine façon, ces gens-là travaillaient chez eux. Ils ont inventé le télétravail. Non, c'est pas ça non plus. Mais si on va faire une application de ça pour nous, travailler devant notre maison ou vis-à-vis de notre chambre, ça revient à travailler, non pas en télétravail, mais travailler là où Dieu nous a placés. À côté des autres, mais chacun dans sa propre sphère d'activité. C'est-à-dire avec les dons, les capacités qu'il nous a données personnellement. Ce qu'il m'a donné, c'est à moi. C'est chez nous. Et c'est avec ça qu'il faut que je travaille. Et c'est là qu'il faut que je travaille, où il m'a placé. Le Seigneur m'a placé à l'église de Trois-Rivières, je travaille dans l'église de Trois-Rivières. Le Seigneur m'a placé à tel endroit, je travaille à tel endroit pour l'œuvre de Dieu. Chacun chez nous. Dans sa propre sphère d'activité. Et c'est comme ça qu'on va être efficace et béni dans notre travail pour Dieu. Chacune des portions de la muraille était relevée par des gens qui travaillaient à des endroits bien précis et le faisaient avec motivation et détermination en étant en relation avec les autres. Dieu ne veut pas qu'on soit isolé. Il veut que le corps de Christ travaille ensemble, côte à côte, en harmonie. Certains peuvent être même très zélés. Regardez le verset 20. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion. Quand j'étais jeune chrétien, je me souviens d'avoir demandé à un des anciens, un des pasteurs de mon église, pourquoi il y avait si peu de gens dans l'église qui s'impliquaient. Ben, il dit, écoute, il dit, c'est comme ça à peu près partout, puis c'est la règle du 20-80. C'est quoi ça, la règle du 20-80? Ben, généralement, il y a 20 % du monde qui font 80 % de l'ouvrage. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Vous savez, il y a des ministères, des services dans l'Église ici où on manque de gens. La fermeture du bâtiment, par exemple. On a besoin de gens pour s'impliquer là. Le déneigement des balcons, des escaliers. On a besoin de gens pour faire ça. Le projet Rassasié, Hélène a souvent a besoin d'aide pour la cuisine et tout ça. Les cours de membres, on va avoir besoin de quelqu'un bientôt pour ça. Service de navette, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai souvent des gens qui m'appellent ou qui m'écrivent et me disent « J'aimerais ça aller à l'église, mais j'ai pas d'auto, je suis à pied, puis dimanche matin, c'est long, c'est compliqué. » Est-ce que quelqu'un pourrait avoir à cœur, par exemple, de dire « Moi, je vais faire ça, ça va être mon service dans l'église. » Le dimanche matin, bon, peut-être pas partout à travers, mais tu sais, moi, j'habite dans tel secteur, puis s'il y a une ou deux personnes, je suis prêt à les ramasser, moi, puis à les emmener à l'église. Avoir comme une banque de service de navette. Peut-être que vous dites, oui, mais OK, moi, je serais prêt à le faire, mais le gaz coûte cher, je n'ai pas vraiment les sous. Mais peut-être que quelqu'un d'autre pourrait avoir à cœur, dire, écoute, je vais te donner quelques dollars à chaque semaine si tu vas chercher des gens. Côte à côte, chacun dans son domaine d'activité. Soyons créatifs, frères et sœurs, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et on a plein de services de ministère dans l'Église où il y a déjà des gens qui s'impliquent, mais qui ont encore de la place à d'autres. Regardez ce matin, André me disait qu'il y avait deux classes, qu'il n'y avait pas personne pour être là. Les gens sont malades, mais s'il y avait plus de monde s'implique, peut-être qu'il y aurait quelqu'un ce matin. Bref, c'est un exemple. Si vous sentez que Dieu vous met à cœur de poser votre brique sur le mur, faites-nous le savoir. Faites-nous le savoir, frères et sœurs. Si vous ne savez pas où vous impliquer, bien, essayez quelque chose. Priez pour ça. Demandez à Dieu de vous montrer clairement à quel endroit vous allez être le plus efficace et servez-le là, avec vos dons, vos talents et vos aptitudes. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Alors, soyons motivés à s'engager tous ensemble à être des bâtisseurs pour Dieu, frères et sœurs. Parce que notre monde est rempli de ruines spirituelles qui ont besoin d'être relevées. Et par la grâce de Dieu, si on décide de dire tous ensemble, levons-nous et bâtissons, on va arriver à quelque chose. Pour la gloire de Jésus. Dernier point, la porte des brebis. Chacune des portes de la muraille avait un nom et une signification qui allait avec ça, bien précise. On n'aura pas le temps de voir ça ce matin, mais j'aimerais vous attirer votre attention sur la porte du verset 1. C'est la porte des brebis. La porte des brebis était à proximité du temple et elle tient son nom du fait que les brebis destinées au sacrifice dans le temple passaient par là. Moi, je trouve ça intéressant si on considère les paroles que Jésus a dites en Jean 10. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Wow! Jésus est lui-même la porte, mais il est aussi, nous dit la parole, l'agneau de Dieu. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? L'agneau de Dieu qui s'est offert en sacrifice pour ôter les péchés du monde. Alors, la porte des brebis, c'est une belle image du salut en Jésus-Christ. Dans toutes les Écritures, dans tous les passages des Écritures, il y a quelque chose qui pointe vers la croix. Et moi, je crois que dans le chapitre 3 de Néhémie, c'est la porte des brebis qui pointe vers la croix, qui nous rappelle qu'il n'y a qu'une seule façon d'aller au ciel, et c'est de passer par Jésus-Christ, parce que c'est lui la porte. Et c'est lui la brebis, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et il n'y en a pas d'autre. En Jean 14, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Passez pas par une des autres portes. » Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a juste Jésus qui donne accès au royaume de Dieu. Il y a un paquet de religions dans le monde, un paquet de philosophies qui offrent plein de moyens d'accéder au salut. Mais tous ces moyens-là, toutes ces religions-là n'arrivent pas au salut. Elles rouvrent sur la perdition éternelle. Parce qu'il n'y a que Jésus qui sauve. En Actes 4, 12, la parole de Dieu nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Est-ce que vous êtes ici ce matin, ou peut-être vous nous regardez sur Internet, et que vous dites, oh, on va arriver, on va tout aller à la même place, mais on va passer par des chemins différents. Quelqu'un qui m'a déjà dit ça? Ben, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. on n'arrivera pas tous à la même place. Parce qu'il y a juste une porte, un seul chemin, une seule vérité qui mène au ciel, et c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Alors c'est par lui qu'il faut passer. C'est lui la porte des brebis qui mène au temple. Et c'est lui l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour que nos péchés soient pardonnés. Il n'y en a pas d'autre. Peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous cherchez la vérité, eh bien, cette vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui que vous devez passer si vous voulez avoir la certitude de salut de votre âme et être à l'abri de la perdition éternelle, derrière les murs de la protection divine pour l'éternité. Les murailles d'une ville fortifiée servaient à protéger ses habitants. Et de la même manière, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont parfaitement protégés spirituellement. Parce que même s'ils meurent, ils vont revivre pour la vie éternelle. Jésus nous garantit la vie éternelle. En 1 Jean 5,13, c'est écrit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vérité, que la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est une certitude, on peut savoir, mais c'est par Jésus qu'il faut passer. Il n'y a aucun autre chemin qui mène au ciel que Jésus. Est-ce que vous avez emprunté ce chemin-là? Êtes-vous sur ce chemin-là? Ou peut-être vous êtes devant la porte et que vous hésitez de passer dedans. N'hésitez pas. Le salut se trouve là. Vous êtes devant. Dieu vous appelle à lui ce matin. Répondez à son appel. La porte des brebis, c'est Jésus. C'est elle qui mène au ciel. Et c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui a été sacrifié pour que vos péchés soient pardonnés aux yeux de Dieu. Alors, n'hésitez pas, venez à lui ce matin. Venez à lui ce matin. Si vous aimeriez en parler, venez me voir après, ça va me faire plaisir de vous en parler, de prier avec vous. Mais soyez réconciliés avec Dieu. Jésus vous y appelle ce matin. Sans faire une interprétation ou une allégorisation du texte, j'aimerais quand même apporter quelques remarques intéressantes. Dans la reconstruction de la muraille, la porte des brebis, c'est la seule qui a été consacrée, nous dit le texte. La seule qui a été consacrée ou sanctifiée, au verset 1. Ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent. C'est intéressant de se rappeler de la sainteté parfaite de Jésus. C'est intéressant aussi de constater que contrairement aux autres portes, la porte des brebis, elle, n'a ni barre ni verrou. Les autres portes ont tous des barres et des verrous, mais pas la porte des brebis. Elle est toujours ouverte. Ça me rappelle que Jésus est prêt à accueillir à tout temps, en tout temps, quiconque veut passer par lui pour être sauvé. Ou peut-être revenir à lui pour être restauré. Mon frère, ma sœur, peut-être que depuis un certain temps, tu as délaissé le Seigneur. Peut-être que ta vie n'est pas sur la bonne voie. Peut-être que tu as un fardeau en dedans. Laisse-le ce matin. Laisse-le ce matin. La porte des brebis est toujours là pour toi, toujours ouverte. Dis pas, j'ai fait trop de choses. Dieu ne voudra pas que je revienne à lui. C'est pas vrai. Reviens. Reviens à ton Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dépose ton fardeau au pied du trône de la grâce. Et reviens à ton Dieu. Fais-le ce matin, mon frère, ma sœur. Tu en as besoin. Fais-le. Jésus a dit en Jean 6,37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Qui que tu sois, tu as besoin d'aller ou de retourner à Jésus, fais-le, n'hésite pas. Un autre point, la réparation de la muraille a commencé à la porte des brebis, au verset 1, et elle se termine à la porte des brebis, au verset 32. Ça me rappelle cette parole du Seigneur dans l'Apocalypse. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Vous voyez, toutes les Écritures sont liées ensemble. Toutes les Écritures sont liées ensemble. Jésus est tout. Et il peut réparer n'importe quelle brèche, n'importe quelle blessure ou ruine dans notre vie. Il est tout puissant et il sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Mon frère, ma sœur, si tu as besoin d'abandonner quelque chose, reviens à Jésus. Et si tu es là, tu n'as pas accepté le salut de Dieu, fais-le maintenant. Et apprenons ensemble à servir le Seigneur. Il y a beaucoup de ruines à relever. Le Seigneur veut nous utiliser, chacun pour sa part, de façon bien coordonnée, devant chez soi, c'est-à-dire avec les dons et les capacités qu'il nous a confiés. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Allez-vous prendre la décision ce matin de servir le Seigneur? Peut-être que vous le servez déjà. Allez-vous prendre la décision de continuer à le servir? Veux-tu avoir un amen là-dessus? Si je reviens à mon histoire du début, en terminant, souvenons-nous que les deux hommes étaient tombés dans le même trou, mais qu'il y en a juste un. Mais qu'est-ce qui fait que l'un des deux en est sorti? C'est qu'il avait une réelle motivation. Le Seigneur revient bientôt, mes amis. Le Seigneur revient bientôt. Alors, motivons-nous à ce qu'il ne nous trouve pas endormis au fond d'un trou, mais veillant, en travaillant à son œuvre et pour sa gloire. Puisse le Seigneur bénir sa parole dans nos cœurs. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, pardon, parce que trop souvent on est paresseux. Ou trop souvent, Seigneur, on ne veut pas te servir parce que il y a toutes sortes de blessures, de déceptions, de frustrations, de mauvaises expériences qui nous en empêchent. Mais en réalité, quand on y pense, ces choses sont des idoles qui se dressent dans nos vies. Des idoles qui sont plus grandes que toi, parce qu'au final, c'est elles qu'on sert au lieu de toi. Seigneur, aide-nous à abattre ces idoles-là. Peut-être que c'est le manque de confiance en soi. Ça peut être bien des choses. Mais Seigneur Jésus, amène-nous à te servir. Puis donne-nous la réelle motivation que nous avons besoin. Parce que sans toi, on n'est rien. Tu nous as rendus libres. On devrait te servir par reconnaissance, par amour, Seigneur. Seigneur Jésus, transforme nos vies. Là où, peu importe où on se trouve présentement, on a certainement besoin de s'approcher encore plus de toi, puis de comprendre des choses. Ce que tu as pour chacun d'entre nous ce matin, inscris-le dans notre cœur, dans notre âme, et que tout soit pour la plus grande gloire de ton nom. Amen.